Bienvenue à tous, chers auditeurs, pour notre émission L'invité de la semaine. Et nous concluons, c'est notre dernier rendez-vous, hélas, avec Sarah Steele. Sarah, bonjour. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Voilà, on se retrouve pour notre immersion au Malawi. Une immersion où, bien sûr, on ne peut pas tout raconter, hein, Sarah. Alors, vous avez dit que dans vos bagages, vous aviez porté votre journal de bord.
Oui.
Qu'est-ce qui a été noté de, je dirais, à l'encre rouge dans ce journal ?
Toutes les impressions sur le coup. Donc, ça a été autant des pages noircies avec, avec des impressions de béatitude et d'émerveillement sur les enfants, sur les paysages, sur les contacts humains que j'avais pu avoir. Peut-être un peu moins quand même, heureusement, un peu moins de pages d'énervement et d'incompréhension sur l'injustice des situations et sur les inégalités plus que visibles et sur le fait que c'était ça restait beaucoup d'énergie pour finalement assez peu de résultats mais bon au final ça en valait largement le coup. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques moments à me dire je m'épuise pour rien. C'est pas possible, j'en vois pas la fin. Il y a eu des moments assez difficiles, mais bon, ça a pas duré. Parce que c'est vrai que heureusement, le contact des enfants, ça a ça de fantastique que ça nous renvoie directement à une réalité souriante.
Tout à fait, puis surtout à l'espérance toujours, parce ouais. que quand on voit les enfants, c'est toujours la génération qui vient, c'est la génération future. Donc, alors Sarah, la dernière fois on évoquait le cas de cette petite fille atteinte du sida, et en vous écoutant je me disais, mais quelque part ça a été une expérience bénéfique, parce que ça vous a donné la possibilité de parler avec le corps enseignant, et de leur dire, ben, il faut changer ses manières, il faut pouvoir, hein, on peut faire quelque chose, il faut réagir, c'est aussi notre mission, notre devoir de s'occuper de tout l'être, parce que lorsqu'on enseigne, et là Hervé, je pense que tu seras d'accord, lorsqu'on enseigne, lorsqu'on transmet ce qui nous semble une richesse, en tout cas des éléments, un savoir. On ne transmet pas à une personne anonyme, on transmet à une personne totale, complète. Donc si cette personne va mal, si cette personne est mal, si cette personne a besoin de s'asseoir, de bien s'asseoir, d'avoir des livres, il nous faut connaître aussi son milieu, sa situation, tout ça c'est très important parce qu'on peut pas... On n'est pas des machines. Ça m'a frappé lorsque vous disiez, les enseignants, ils étaient formés à débiter des cours magistraux, mais en fait, qui ne s'adaptaient pas du tout à la réalité, aux enfants, etc. Et on voit bien que lorsque on enseigne, c'est aussi un dialogue de vie qui se fait. Donc, on est obligé aussi de prendre fait et cause, hein, et d'agir. Je pense que vous feriez une très bonne enseignante. Si jamais, hein, si ouais, vous voulez vous recycler, voilà.
Ça dépend des pays.
Voilà.
Par rapport au livre, n'oublions tout de même pas que là-bas, c'est pas un livre par enfant.
Il y a l'enseignant. C'est un livre par banc.
L'enseignant a un livre, et puis il peut y avoir peut-être 4 ou 5 livres à partager en 80 dans le.
Oui, c'est que les moyens, bien sûr,
année,
bien sûr. Mais il y a une soif d'apprendre quand même,
bien sûr.
Qui est quand même extraordinaire.
C'est ça le grand contraste avec ces enfants de là-bas et les enfants d'ici. C'est pas du tout la même...
Puis on sait que l'école en Afrique est payante.
C'est pas une corvée pour ces enfants d'aller à l'école.
Oui, au contraire, c'est plutôt des vacances. C'est-à-dire, chaque journée passée à l'école, c'est une journée en moins à travailler pour aider la maison à récolter.
Tout à fait, bien
donc,
sûr.
Bon, c'est des vacances.
Donc on a vu aussi quand même que pour... malgré la bonne volonté, l'enthousiasme ne suffit pas pour agir dans l'humanitaire. Il faut connaître aussi les gens que nous avons en face. Vous disiez tous les deux dans vos témoignages, on est toujours en but à une culture qu'on ne connaît pas. Et parfois une culture qui entrave, une culture au contraire des fois qui enrichit, qui nous apporte toujours plus. Je pense surtout au sens de la communauté et de la solidarité quand même qui existe surtout dans les communautés villageoises. On dira pas le village, parce que le village pour nous Corses, c'est 50 personnes. Alors bon, c'est un peu difficile. Alors on dira les communautés villageoises. Donc il y a, et parfois dans cette culture il y a aussi des entraves. On a parlé de la sorcellerie, etc., qui des fois bien handicapent le travail, hein, il faut dire ce qu'il en est. Donc ça présuppose la personne qui part, Sarah, une certaine disponibilité.
Oui, une certaine disponibilité, une certaine ouverture d'esprit, je pense aussi, parce que on peut pas arriver dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, et carrément sur un continent tout entier que je ne connaissais pas de toute façon, avec des idées préconçues sur les gens, sur comment il faut faire, comment il faut être.
Avec nos modèles occidentaux. Ouais.
C'est impossible. C'est impossible. Ça peut pas être transposé, surtout à l'Afrique, je pense. On peut pas leur souhaiter nos modèles de développement, parce que je pense que de toute façon, en fin de compte, on n'est pas forcément plus heureux. Et puis il faut arriver à rentrer dans leur quotidien et dans leur perception de la vie pour les aider, mais toujours dans leur optique. Moi, je suis contre les tentatives d'imposition de notre modèle, parce que je pense que c'est un modèle, notre modèle préfabriqué ne leur conviendrait pas, et qu'il vaut mieux les aider à se développer avec leurs outils et plutôt à les comprendre qu'à leur dire vous êtes bêtes, vous êtes sous-développés, nous on va vous dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est une très mauvaise idée. Je pense pas que ça puisse marcher.
Alors, il faut dire que dans l'expérience des ONG, depuis une quarantaine d'années, il y a eu ce changement de mentalité. Où maintenant, on commence à comprendre de plus en plus que l'important, c'est de, bien sûr, d'aider ces peuples, ces populations à se développer, mais selon aussi leurs moyens, leurs capacités et selon leur culture aussi, tout en respectant tout cela.
Il y a encore un long chemin à parcourir dans ce domaine. Et je vais, pour compléter ce que disait Sarah, et pour être un peu provocateur, pour répondre à ta question dans laquelle tu disais qu'on devait faire face donc à une culture qu'on ne connaissait pas ou mal, et qu'il y avait des éléments qu'il fallait prendre en compte, etc. Moi, je vais dire très simplement que j'ai eu plus de difficultés à essayer de comprendre la culture canadienne que la culture des paysans du Malawi. J'ai passé une grande partie de mon temps pendant cette période où j'ai été directeur de cette petite ONG canadienne à essayer d'expliquer par courriel, puisque je n'avais pas des Canadiens avec moi, mais je rendais compte à des Canadiens là-bas au Canada, à essayer d'expliquer quels étaient les besoins, ce qu'on attendait et ce qu'il fallait faire. Tandis que eux avaient une certaine idée misérabiliste des petits enfants africains, et ils avaient des idées toutes faites. Par exemple, pour eux, la solution au problème, c'était de faire pleurer dans les chaumières au Canada afin que les braves gens amènent des choses et remplissent un conteneur, et que ce conteneur puisse être envoyé en Afrique, sans se poser la question de savoir si ce qu'il y avait dans ce conteneur était réellement utile là-bas, si on ne pouvait pas le trouver peut-être sur place, et également sans réfléchir du tout au coût, tant au point de vue temps qu'au point de vue financier, des formalités de dédouanement d'un conteneur. Et j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de ce genre de choses. Et ça, ces braves personnes qui avaient de bonnes intentions ont eu du mal à comprendre que j'ose critiquer le principe même de l'envoi d'un conteneur. Figurez-vous, je vais vous donner un petit exemple qui va peut-être faire sourire nos auditeurs, mais j'avais dans nos entrepôts des quantités invraisemblables de matériel de hockey. De hockey sur glace, hein, je précise. Je ne sais pas si nos auditeurs savent ce que c'est que le hockey sur glace, mais en tout cas, les Malaviens savent encore moins ce que c'est que le hockey sur glace. Et on m'a fait le reproche de ne pas avoir enseigné aux enfants du village à jouer au hockey.
Oui, donc bien sûr, c'est un travail. C'est un travail d'expérience aussi, je crois, de terrain. Il faut rencontrer les gens. Il faut peut-être que ce petit comité de gens pleins de bonne volonté aurait dû d'abord faire un petit séjour au Malawi.
Elles l'ont fait, mais je dis elles, hein, parce que c'était essentiellement des dames patronesses. Là.
Je voulais pas que tu le dises.
Elles l'ont fait, mais elles sont restées tout le temps ensemble, à vivre ensemble. et à mitrailler les gens de photos, n'arrêtait pas de prendre des photos. Le soir, elles se retrouvaient ensemble et elles mangeaient les pizzas qu'elles avaient commandées en ville. Mmh. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'elles avaient retenu de leur séjour au Malawi? Je ne sais pas.
Ah oui, ben c'est tout l'enjeu aujourd'hui, de toute façon, même dans le tourisme, parce que j'en reviens, parce que ça me fait penser tout simplement à des touristes en quelque sorte. Même le tourisme aujourd'hui dans ces pays, dans les pays qui sont en voie de développement, doit être un tourisme, comment on dit, un tourisme intégré ou en tout cas équitable, et où la personne qui vient visiter puisse avoir la chance de découvrir réellement le pays, non pas la carte postale du pays, mais le pays. Parce que si c'est pour trimballer notre caravane avec nos systèmes et nos idées à nous et nos photos, bon, c'est évident qu'on découvre rien. Hein. On ne fait que se déplacer, c'est un peu d'exotisme, mais...
Les enfants africains ont une créativité extraordinaire. Ils arrivent à fabriquer des jouets avec trois fois rien, avec une bobine, avec une boîte de conserve vide. Ils vont faire un magnifique camion ou une magnifique petite voiture. Et du Canada, on recevait tout un tas de jouets made in China à distribuer aux enfants. Et moi, je leur ai dit, arrêtez un peu. On devrait faire le contraire. Je leur ai dit, même un peu provoquant, je devrais vous envoyer les jouets fabriqués par ces enfants africains pour que vous les montriez à vos enfants canadiens, pour montrer un petit peu la créativité de ces enfants.
Alors, Sarah... On arrive presque au terme, hélas, de ce périple, de ce voyage. S'il y avait un mot de la fin, d'abord, deux questions avant que vous nous disiez un petit peu votre impression finale. Peut-être ça va, d'ailleurs, l'un va rejoindre de toute façon la question, peut-être va vous aider pour nous donner cette conclusion, je l'espère. Première question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous avez le désir de repartir?
Oui. Oui, largement. Malheureusement, j'ai travaillé, deux mois et demi cet été, mais une partie de l'argent que j'ai gagné doit financer mes études. Mais j'aurai fini l'année prochaine et je retravaillerai. Et cette fois, ce sera pour payer un voyage encore en Afrique, je pense. Peut-être en Éthiopie.
Et dans votre vie professionnelle, une fois terminées donc vos études, quelles sont les possibilités que vous aurez à travailler dans l'humanitaire par rapport aussi à votre bagage?
Alors, je pense que dans l'idéal, j'aimerais travailler au siège d'une organisation, mais je refuse d'y aller avec des idées préconçues, comme beaucoup de gens qui sont diplômés et qui intègrent immédiatement les sièges d'organisations plus ou moins importantes, en prenant des décisions pour les gens sur le terrain sans avoir aucune expérience. Donc dans l'idéal, j'aimerais partir quelques années et faire ce que certains considèrent être le sale boulot. Et voilà, et côtoyer la réalité du terrain et me forger ma propre opinion pour être à même plus tard de savoir de quoi je parle et pourquoi je mobilise des fonds ou pourquoi je décide de représenter une action ou un programme.
Et s'il y avait un mot de la fin, je dirais, quel est le message que vous adressez à tous nos auditeurs aujourd'hui?
Je pense
à l'issue de cette expérience, de toute cette expérience et cette recherche que vous avez.
Je pense qu'il faudrait, je serais presque tentée de forcer les jeunes Corses à un voyage obligatoire dans des pays comme ça. Parce que ça aide tellement à l'ouverture d'esprit et à l'humilité. Je veux dire, quand on rentre d'un voyage comme ça, on peut plus se plaindre, c'est interdit. On est obligé de lever la tête et de se dire qu'on est très chanceux et que si on veut pas aider les autres par-delà les frontières, on peut déjà au moins commencer par arrêter de se plaindre sur notre sort et de voir la vie comme quelque chose de fantastique et que vraiment il y a bien pire ailleurs et que en plus on peut aider de là où on est.
Hervé?
Bah, je ne peux que souscrire à ce message que Sarah vient de faire passer aux jeunes Corses. Je pense qu'effectivement, ce genre d'expérience amène à relativiser les choses et que parfois, quand on entend des débats n'en plus finir à la télévision sur la, la grippe du cochon là. Les gens aiment avoir peur. Bon, alors que ils savent très bien, ou du moins ils ne veulent pas le savoir, peut-être qu'ils ont très peu de chances d'attraper cette grippe et que cette grippe finalement c'est une grippe comme une autre. Mais ça mobilise la presse, ça mobilise les médias, ça mobilise le public. Alors que le paludisme tue des millions de gens chaque année, ce qui ne sera pas le cas, fort heureusement, pour cette grippe dont on parle tant.
Merci Hervé, merci Sarah.
Merci.
J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir à nouveau sur notre antenne pour votre prochain voyage.
Ah oui.
Hein, en revenant. On garde le contact en tout cas, et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de votre cheminement, parce que moi j'appelle ça un cheminement. C'est plus des études, c'est pas une formation professionnelle, c'est un chemin de vie. Alors bravo et bonne continuation à vous. J'espère plein de réussite en tout cas.
Merci beaucoup.